appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Kapi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. La République démocratique du Congo annonce son intention de déposer sa candidature à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques pour organiser la COP27 en 2021 à Kinshasa, a annoncé le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Cheokitundu. C'était à l'ouverture mardi à Kinshasa du Forum de l'économie du climat placé sous le thème « Engager les acteurs économiques dans la mise en œuvre de l'accord de Paris ». Comment réagissez-vous face à cette actualité? Toutes nos deux lignes sont disponibles pour vos interventions en direct. C'est les 0 81 890 49 69 et 09 97 06 49 69. Vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nico Kalambay est à la réalisation de ce programme, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et Piro Elamenji. J'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Julien Niamouini. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Okapi Service à Mbandaka. Émission spéciale sur la maladie à virus Ebola. Venez nombreux participer à l'enregistrement de l'émission Okapi Service ce vendredi 15 juin à 13h dans l'amphithéâtre de l'ISP Mbandaka.
Okapi Service, après les autres provinces, a choisi d'être avec nous. Ne ratez pas cette occasion unique.
Au menu, croyances, pratiques et rumeurs autour de l'épidémie d'Ebola.
Yo mon Akiras.
Rendez-vous ce vendredi 15 juin à 13h dans l'amphithéâtre de l'ISP Mbandaka avec Jody Daniel Keshama et toute l'équipe d'Okapi Service. 1, 2, 3
Okapi. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Adopté en 1992 lors du sommet de la Terre des Rio de Janeiro et entré en vigueur le 21 mars 1994, la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques vise à publier les taux d'émissions des gaz à effet de serre, mettre en œuvre des stratégies visant à réduire ces émissions pour atténuer les changements climatiques, prendre des mesures pour faciliter l'adaptation aux impacts des changements climatiques et apporter un soutien financier et technologique aux pays en voie de développement. Et la RDC a l'intention de pouvoir organiser la COP 27 en 2021 à Kinshasa. Comment et commentez-vous cette actualité? Nous allons tout à l'heure recevoir le professeur Albert Kabasele, président du comité préparatoire de la COP 22 et membre du comité préparatoire de la COP 23. Nous allons en parler avec lui. Mais en attendant, vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, vu la place que la RDC occupe dans le règlement du climat mondial. C'est ce que vous pensez, Arsène. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Kikuite, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole donnée, Pierrot. Je suis vraiment émerveillé, très émerveillé que le Congo puisse se mettre à la tête et chercher à organiser la conférence de participants ici à Kinshasa, chez nous. Je suis très content. Mais alors, ma contribution dans cette émission serait de mobiliser les citoyens congolais, parce que je suis dans ces histoires depuis COP 20, je suis en train de suivre qu'est-ce qui se passe. Nous avons des opportunités au Congo, des grandes opportunités pour que nous puissions bénéficier dans le principe du pollueur payant. Mmh. Et là-dedans, nous avons deux marchés. Il y a le marché obligatoire qui est réservé à l'État congolais dans ce qu'on appelle les terres vacantes. Mais alors, il y a des terrains qui ont été déforestés. Il y a des terrains qui sont dans la savane. Et il y a un marché là-dessus, le marché libre. La personne qui veut bien essayer de participer tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre, peut s'y mettre. Je suis parmi les gens qui ont préféré aussi sauver l'humanité en contribuant à peu que soit à l'atténuation de gaz à effet de serre. Alors j'appellerai à la population de Kikwit en particulier, du Congo en général, surtout ceux du Sud, de nous engager dans la plantation des essences qui peuvent faciliter la séquestration de carbone et atténuer le système climatique.
Mais on sait, Arsène, pour arriver à un tel projet, planter des essences, un projet colossal qui demande de financement et des moyens. Aujourd'hui, si vous invitez la population à le faire, faudrait-il avoir des structures et une orientation qui puisse encadrer la population à arriver à faire cela?
Effectivement, M. Perrault, dans cette situation, pour ceux qui ne le savent pas, on peut recevoir des ONG, on peut recevoir des confessions religieuses, on peut recevoir des entreprises et on peut recevoir des opérateurs économiques indépendants. Donc, le problème qui peut se poser ici chez nous, tel que dans le sud du Congo, c'est le problème des terres. Et quand le ministère des Affaires foncières pouvait avoir une loi là-dessus, tel est mon projet, obtenir auprès du ministère des Affaires foncières une loi qui donne l'autorisation, qui donne la possibilité de chaque groupement dans sur toute l'étendue du Congo d'avoir des terres réservées. C'est ce que j'expliquais la fois passée, les affectations des terres. On doit affecter des terres, des milliers d'hectares, et essayer un peu de donner ça à la population, aux initiatives privées, aux volontaires, d'essayer un peu de travailler. Moi qui vous parle, je suis allé sur les terres ancestrales. J'ai donné mon projet et la population m'a accepté. Et nous allons le faire sur près de 10 000 hectares et nous allons planter des forêts là où il y aura des différentes essences qui vont servir. Alors, de ce qui va ressortir de la COP 24, je comptais personnellement y participer, et voir comment on peut négocier le marché privé pour essayer un peu d'atténuer aussi la pauvreté qui se trouve dans ma province, le Kwilu, qui est à vocation agricole. Nous pouvons le faire.
Merci beaucoup Arsène. Non seulement cela va permettre la séquestration de carbone, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Si au niveau du ministère des Affaires foncières, on pouvait réserver des terres uniquement pour la séquestration du carbone, c'est ça votre cheval de bataille. Mais vous saluez le souci et l'intention de la RDC de pouvoir organiser la COP 27 à Kinshasa, comme l'ont dit nombreux sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Christian, vous êtes ici à Kinshasa, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour aux auditeurs.
On vous écoute Christian.
Merci de la parole accordée. Je crois que l'RDC est dans une bonne position pour chercher à organiser ces genres d'assises, étant donné que l'RDC a une forêt dense, la dite forêt est classée deuxième au monde après l'amazonienne. Mais la chose qui va un tout petit peu compliquer les choses, c'est que il y a plusieurs éléments qui interagissent pour l'organisation de ce genre d'assises, notamment l'aspect lié au climat politique du pays hôte. Or, sur ces points, Pierrot et Lamé, vous êtes sans ignorer que toute la planète entière s'inquiète sur la crise politique qui a élu domicile au pays de Tshisekedi de Lumumba. Et donc, cette chose met directement Kinshasa en porte-à-faux. Dans ce sens que, dans ses rapports avec ceux qui sont au fait aujourd'hui considérés comme étant la clé des voûtes au sein de cette structure des Nations Unies, risqueraient justement de peser de tous leurs poids pour compromettre les désirs souhaités par le gouvernement congolais, étant donné que le climat étendu se joue aussi entre Kinshasa et toute ces puissances-là. Mais l'intention vraiment elle est bonne, surtout la position stratégique qu'occupe la RDC avec toute sa contribution. Mais ce qu'il faut ce que nous pouvons faire, c'est beaucoup plus ça d'essayer étant soit paix à réorganiser les choses, notamment le climat politique, de sorte que en 2020, ça sera, je crois, en
2021, oui.
Voilà, en 2021, donc ça sera peut-être après les élections. Donc, nous pouvons supposer que c'est un projet qui aura des effets à venir. Mais si il faut s'attendre, si c'est seulement le même régime qui va continuer en 2021, Lungembo et la Meji Pierrot, je doute fort que nous puissions organiser ce genre d'assises avec ces climats politiques.
Merci Christian, vous estimez que vu la position qu'occupe la RTC sur le plan de la protection du climat mondial, c'est important d'organiser ces forums à Kinshasa et à RDC, mais pour vous, si y arriver, il faut des préalables comme la stabilité du climat politique, cela peut permettre à ce que le monde entier se tourne en RDC. Merci beaucoup, mais vous avez salué l'intention du gouvernement de pouvoir le faire. Notre invité est déjà en ligne, on pourra lui accorder la parole d'un moment à l'autre, le temps d'écouter Marie-Paul qui est à Kisangani. Marie-Paul, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, j'ai dit l'initiative est bonne, l'initiative est louable, mais la RDC doit d'abord procéder par des préalables. Pourquoi j'ai dit qu'elle doit d'abord procéder par des préalables? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que dans des conférences internationales où sont discutées les questions environnementales et les questions liées au réchauffement climatique, la RDC est absente. La RDC n'envoie pas des représentants qui ont voix au chapitre. Alors, les gens qui vont là ne savent pas négocier pour que par rapport aux réserves que la RDC a de ses forêts, que ça soit un atout pour le développement de la RDC. Voilà, c'est d'abord un préalable. Donc, il faut qu'on ait des interlocuteurs qui sauront comment négocier pour que les forêts que possède la RDC soient un atout qui va permettre à cet État d'aller au développement. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, comme vient de dire l'auditeur de tout à l'heure, il y a aussi le problème le problème politique. Parce que vous allez convier les gens à une conférence dans un pays où l'insécurité a élu domicile. Voyez, vous pouvez lancer cette histoire, mais il n'y aura pas des gens qui vont venir au motif que en arrivant dans ces pays, ils peuvent être menacés. Il faut d'abord que la RDC puisse améliorer son environnement politique, améliorer son système politique. Ça, c'est en deuxième lieu. En troisième lieu, monsieur le journaliste, vous savez que c'est très bien d'organiser les assises et appeler les internationalistes et venir les gens de partout ailleurs. Mais il faut aussi avoir des infrastructures. Il faut avoir des hôtels, des galas, des hôtels où habiteront ces gens. Alors, nous avons aussi le problème d'hôtels. Parce que l'État n'a pas vraiment de maisons bien appropriées pour essayer de loger ces gens. Ça, c'est en troisième lieu. En quatrième lieu, il y a aussi le problème lié à la souveraineté forestière. La RDC a hypothéqué ses forêts. Vous allez voir des gens, des individus qui font la loi dans des vastes étendues forestières. Ces gens-là vous exigent des documents au motif que ce sont des propriétés. Il y a un désordre à ce niveau. Je crois que dans un premier cas, avant que la conférence n'ait lieu, la RDC doit résoudre tous ces problèmes. C'est en résolvant ces problèmes qu'on peut maintenant convier les gens, parce que vous risquerez de venir, de faire venir les gens, et que ces gens-là, lorsqu'ils vont, parce que ce sont des engagements qui seront pris par les représentants. Ces engagements font office des lois, parce que tous les États qui prennent pas, ils doivent obtempérer à ces engagements.
Alors pour vous, Marie-Paul, vous posez quatre préalables pour vous. Le premier, c'est qu'il faudrait d'abord que la RDC désigne des interlocuteurs valables qui doivent défendre la position de la RDC dans ces discussions autour du climat. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'amélioration du climat politique. Comme le disait tout à l'heure notre ami Christian, il faut qu'il y ait un apaisement politique pour permettre à que le monde entier s'est réuni au Congo. Vous avez parlé des infrastructures, il faut travailler sur ça, ça s'étale sur un projet pour 2021. Rappelons quand même que dans un passé récent, la RDC a organisé le sommet international de la francophonie et puis vous souhaitez aussi qu'on mette de l'ordre dans la gestion de la question forestière, parce qu'on parle du climat, on parle de cette forêt qui doit protéger le climat, il faut aussi mettre de l'ordre. Merci beaucoup Marie-Paul. Adrien, vous gardez la ligne, vous êtes à Kananga. Nous retournons ici à Kinshasa. Nous sommes en ligne avec le professeur Albert Kabasele. Et professeur, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez été président du comité préparatoire de la COP 22, c'est ça? Et membre du comité préparatoire de la COP 23. Je crois que on vous a bien présenté.
Oui, COP 22, COP 23 et membre du comité préparatoire de la COP 24 qui aura lieu à Katowice.
Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ces moments. La RDC, comme l'a annoncé le vice-ministre des Affaires étrangères, a l'intention de déposer sa candidature pour l'organisation de la COP 27 en 2021. Pensez-vous que, vu la position qu'occupe la RDC sur le plan de la protection de ce climat mondial, c'est vraiment important qu'un jour la COP s'organise ici au pays?
Oui, je pense que c'est une bonne intention de pouvoir annoncer ses couleurs pour que la République démocratique du Congo puisse aussi avoir droit au chapitre. Mais je juge que c'est trop tôt. Et c'est trop tôt parce que ça risque de sonner comme une impréparation. La COP 27 n'est pas comparé avec la rencontre de la francophonie, comme je l'ai entendu tout à l'heure. C'est une très, très, très grosse machine de pas moins de 194 États du monde. Donc, il faut beaucoup de préalables. Et je propose qu'on en prenne au moins 10 ans pour nous préparer à ces grands rendez-vous. C'est aussi notre droit, mais il faut du temps pour la RDC.
Et vous êtes dans les comités préparatoires. Alors, faudrait-il combien d'États, de temps plutôt à un État pour pouvoir se préparer ou se pointer comme candidat à l'organisation de la COP?
Non, il n'y a pas de temps pour pouvoir accéder à cette annonce de préparer la COP. Il n'y a pas un temps précis. Mais je vous l'ai dit, les îles Fidji ont pris le risque de préparer, d'organiser la COP 23 qui a eu lieu en Allemagne. Ils n'ont pas pu. La COP a été prise en charge presque par l'Allemagne parce que c'est un petit pays. Les infrastructures n'ont pas suffi et c'était aussi l'impréparation. Donc, je ne voudrais pas que mon pays tombe dans le cas des figures des îles Fidji. Et là, je voulais me justifier, si vous le permettez.
Sans problème.
Et il faut un leadership sur des questions du climat en Afrique. Donc, il y a de grands enjeux aujourd'hui. Et quel est notre message par rapport à la santé des océans, la protection des forêts, la protection des biodiversités, les potentiels hydroélectriques et les capitaux nécessaires, la santé des cours d'eau douce. Donc, la RDC n'a pas encore planifié ces grandes questions de climat et n'a pas un message fort et clair pour chacune de ces questions. Et nous n'avons que le projet RED que nous portons. Et ce projet n'est même pas financé par notre gouvernement. Il est financé totalement par l'extérieur. Mmh. Et ça ne va pas. Mmh. Donc, il nous faut un leadership politique. Donc, il faut la présence de notre chef de l'État dans tous les symposiums du climat, comme font tous les chefs d'État du monde, on les voit. Le nôtre, depuis que moi, je vais dans des COP, j'ai presque 10 COP dans lesquelles j'assiste. Notre chef de l'État est toujours représenté. Et pour cela, je pense que on a un problème de leadership en matière de climat. Et il nous faut une prise de position très claire sur des grands enjeux et sur le fond. Vous avez vu, Brazzaville a pris le leadership du climat en Afrique en proposant un fond bleu. Donc il nous faut une forte diplomatie. Et on va aussi dire que nous ne sommes pas une démocratie. Donc il nous faut d'abord passer par les élections, pacifier tous ces petits conflits politiques, réconcilier la population, ainsi de suite. Il nous faut un leadership scientifique. Donc il faut que des professeurs que nous sommes et des chercheurs et des maisons de recherche travaillent beaucoup sur les questions du climat avec des publications claires. Vous avez des symboles comme Nicolas Hulot en France, mm-hmm. aux États-Unis, vous connaissez le vice-président Al Gore, ainsi de suite. Il nous faut des publications. Et enfin, il faut chuter avec les infrastructures, les routes, des hôtels. Je vous informe qu'avec 194 pays, il n'y a pas d'hôtel à Kinshasa. Les gens ne pourront pas aller rester en Guringiri, ainsi de suite. Donc, il nous faut un personnel qualifié. Et voilà les enjeux, enjeux qui font que, avec même notre budget, et avec tout ce que nous avons comme problème économique, c'est tôt de parler de la COP 27 en 2021. Et pour toutes ces questions que je viens de d'exposer, je propose que ça soit la COP, par exemple, 33 en 2027. Donc, qu'on prenne à peu près 10 ans de préparation et qu'on avance. Je salue, par exemple, le forum de l'économie du climat qui a eu lieu à l'hôtel du fleuve. Donc, des activités comme ça. On prend le leadership sur des questions raides, le leadership sur des questions de tourbières, le leadership sur des questions de l'eau, le leadership sur les questions des énergies. Et puis, on prépare des conférences, on invite le monde chez nous et on s'arrange pour que on puisse paraître et on soigne notre image extérieure. Et le chef de l'État commence à aller dans des réunions internationales. Alors, à ce moment-là, nous pouvons sortir et dire, bon, nous prenons la COP, par exemple, 27 ou 28. Mais alors, dans 2-3 ans, je ne pense pas.
Alors, professeur, quand vous avez dressé ces tableaux sur notre ou bien notre faiblesse de leadership en termes de climat, alors, où se trouve le problème? Le problème se trouve au niveau de la définition des politiques claires en termes d'environnement, où nous avons cette faiblesse, ou c'est un problème d'interlocuteur, parce qu'il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure, il faut qu'on ait, vous l'avez évoqué, des scientifiques, des interlocuteurs capables. Mais alors, quand vous faites les diagnostics, où se trouve exactement le problème aujourd'hui?
La RVC a des personnes, mais ces personnes ne sont pas utilisées. Donc moi, je vais dans des réunions de COP de climat depuis Copenhague, donc depuis très longtemps. Ça fait à peu près 8 COP dans lesquelles j'ai assisté. Je vois comment d'autres pays se présentent. Les pays viennent comme une armée, avec un projet structuré, avec des scientifiques qui ont des tâches précises. Donc, nous, on y va en ordre dispersé. Et professeur, tu vas avec nous, oui, mais le message n'est pas clair. Le ministre de l'Environnement arrive, et des fois, il n'est pas compris par ses pairs. Le ministre des Affaires étrangères, des fois, n'arrive pas. Les chefs de l'État n'y arrivent pas. Et tout ce que nous préparons, ce n'est pas vraiment entendu. Il faut que, au sommet de l'État, la présidence de la République, la primature et les affaires étrangères prennent cette question des négociations du climat à bras le corps. Donc, il faut que les scientifiques soient préparés et que l'opération Ngulu, ceux qui peuvent partir en Europe pour rester et après ils ne reviennent pas, ceux qui partent pour faire le shopping et ils n'assistent même pas aux réunions, et la tâche reste vraiment entre les mains de la direction de développement durable seule et de quelques scientifiques et ainsi de suite. Mais c'est cela, les gens sont là et nous avons Tosi Panupanu qui est un très très bon négociateur, nous avons Hans Diamba, et moi je ne peux pas parler de moi-même, il faut que les autres parlent de moi, ainsi de suite. Donc vous avez des gens, mais ces gens ne sont pas utilisés comme il faut. Ils ne sont pas financés, ils ne sont pas encadrés, ainsi de suite. Il n'y a pas de publication assez suivie, et il n'y a pas une revue scientifique qui parle réellement du climat au Congo et des négociations, et il n'y a pas un suivi. Donc il y a tous ces problèmes. Il faudra qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. Les gens sont là, mais il faut un leadership politique et diplomatique fort.
Merci, professeur. On va revenir à vous. 081-890-4969. 081-890-4969 pour intervenir en direct à Adrian et Wesley. On va vous accorder la parole d'un moment à l'autre.
Écho de développement. Écho de développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences et les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète. C'est dans Écho de développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion le mardi à 9h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Adrien, vous êtes ici à Kinshasa, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et aux professeurs.
On vous écoute.
Alors, je vais d'abord faire le constat et après je vais commenter sur le sujet. La RDC, c'est un scandale géologique. La RDC, c'est un paradis sur Terre. Plus de 60% de réserves en eau. La RDC a la deuxième forêt mondiale. La RDC a un fleuve très puissant avec la capacité d'avoir un barrage qui pourrait alimenter, si pas toute l'Afrique et à l'étranger. Mais comment nous, les Congolais, nous profitons de cela? Pourquoi nous sommes toujours pauvres? Ce scandale géologique, nous sommes potentiellement riches. Moi, je réponds par un problème de leadership. J'ai félicité déjà le professeur qui a fustigé cela. Notre pays devrait être en avance, surtout en matière de climat ainsi que de ressources naturelles. Quand je parle de ressources naturelles, je vois le sol et le sous-sol. Nous avons dénoncé le fait que notre pays a toujours été absent. S'il est présent, c'est juste une figuration. Et ici, à côté de nous, le Congo-Brazza nous a ravi ce leadership en organisant ce sommet avec tous les États et en faisant croire au monde que c'était lui qui avait la réserve des tourbières. Mais après les recherches ainsi que les publications, on s'est rendu compte que la grande partie, si ce n'est pas 70% des tourbières, se trouve au Congo. Alors, la difficulté, premièrement, c'est d'abord le leadership. Et deuxièmement, manque de vision. Les dirigeants de notre pays gèrent ce pays dans le présent. Pourtant, les vrais leaders du monde gèrent la nation pour l'avenir. C'est-à-dire, on investit aujourd'hui pour que la génération à venir puisse continuer et vivre dans le bon. Alors, tout ce qu'on est en train de faire, que ça soit la réhabilitation, que ça soit toutes les décisions, la plupart, c'est juste à court terme, 2 ans, 5 ans, ça se termine. Pourtant, la question du climat, c'est une question qui devrait être investie dans le temps. Il est vrai que le professeur estime qu'il faut 10 ans de préparation pour organiser un sommet comme la COP. Je ne suis pas totalement d'accord, parce que je peux prendre un exemple des organisations au-delà du sommet de la francophonie. Il y a par exemple un État africain qui a organisé la Coupe mondiale. La Coupe du monde, c'est ça. Ça demande beaucoup plus de volonté d'infrastructure. Mais lorsque l'État a levé l'option de pouvoir organiser en projection, ils se sont mis au travail. Si cette volonté du vice-ministre, c'est une volonté de l'État, je pense que tous les secteurs de l'État peuvent se mobiliser pour essayer de mettre les moyens afin que, à la date voulue en 2025, que ça soit organisé. Si cela n'est pas vrai, selon l'avis de l'expert, oui, il faut encourager déjà, par exemple, ce qui s'est passé à Memling, et aussi la RDC, avant d'organiser, par exemple, le sommet mondial, on peut organiser autant de sommets régionaux, sous-régionaux, sur la question du climat, pour essayer de jauger déjà la capacité d'organisation avant d'y arriver. Donc moi, j'estime que ce n'est pas vraiment le temps qui est le problème, c'est le leadership ainsi que la vision et la définition des missions dans le temps et dans l'espace. On peut le faire même en 2021. En ce qui concerne les infrastructures hôtelières, par exemple, oui, ça existe, il y a quand même, le professeur ne doit pas dire qu'il n'y a pas assez de maisons, mais lorsqu'on organise, il y aura des contraintes, il y aura des investisseurs, donc il y aura toutes les données qui vont coaliser pour la réussite de cet événement. Peut-être que ça ne peut pas être égal à la France, mais ça peut être égal à la RDC. L'intérêt serait lequel? L'intérêt serait qu'on va approcher le monde. Le monde va venir palper des réalités et voir comment est-ce que ce pays est riche et il est en train de donner de l'oxygène à tout le monde entier. Cela pourrait toucher d'une manière ou d'une autre aux bailleurs de fonds.
Voilà, merci beaucoup Adrien. Vous avez évoqué cette question, comme le professeur l'a dit, sur les leaderships. Vous avez parlé d'absence de vision. On ne prévoit pas à long terme toutes les décisions ou les planifications, c'est pour la consommation immédiate. Mais c'est effectivement là la question. C'est pourquoi le professeur le disait tout à l'heure. On peut s'inscrire dans le temps, voir quels sont les travaux qui doivent être faits en amont. Non seulement avoir des infrastructures, mais c'est aussi l'ensemble de la manière dont la RDC gère la question du du climat. Vous l'avez dit, on ne gère pas la question du climat. Hein, c'est en regardant dans l'avenir, c'est une question qui est gérée d'une manière, on peut dire ici maintenant, et dans ces conditions, quelle pourrait être la crédibilité de notre candidature. Mais vous estimez qu'il faudrait encourager, mais qu'on puisse avoir une vision claire et un engagement clair. C'est tout ce que notre invité a pu expliquer. Wesley, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité. Heureusement que la parole m'est accordée juste après l'intervention de notre invité. Et surtout qu'il est aussi bien placé pour expliquer les choses. Mmh. Je suis Luboya Wesley depuis la ville de Kananga. En même temps, je me présente comme environnementaliste car je suis finaliste à l'Institut supérieur de développement rural ici chez nous à Kananga. Mmh. Le problème c'est quoi Pierrot et le Menji? La RDC, la position qu'elle a prise, merci, nous saluons, elle est bonne. Mais est-ce qu'elle saura s'assumer? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, lors de la COP 22, avant de revenir à la COP 21 qui s'est tenue à Paris en 2015, et qu'est-ce que j'ai en 2017? Revenons un peu à la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech, et là nous sommes à Maroc 2016. Vous savez, la RDC a été parmi le pays, les 48 pays, les moins avancés pour préparer, en fait, la COP 22 ici. Mais la RDC était l'un des pays qui assumait la présidence de ces 48 pays les moins avancés. Et quel a été l'objectif de ces 48 pays présidés par la RDC? C'était justement pour adapter le climat qui est aujourd'hui un problème connu de tout le monde, atténuer ce climat qui bloque beaucoup d'activités socio-économiques, et aussi les moyens de financement et la mise en œuvre de l'accord de Paris. Oh, je m'excuserai. La COP 22, qui a eu lieu du 7 au 18 novembre 2016, les différentes conférences tenues lors de cette COP, il y a eu des conférences sur l'eau, l'électricité, dans lesquelles des conférences, la demande a été faite à notre pays pour le transfert de l'eau des rivières Oubangui vers les lacs Tchad, où sa superficie a diminué de plus de 80%. C'était la position de la RDC. Or, il était parmi les pays les moins avancés choisis pour préparer la COP. Et aujourd'hui, le Tchad devient pour nous un pays adversaire sur la guerre de l'eau. Personne n'est censé ignorer cela. Et vous savez, la COP 21 qui s'est tenue à Paris, la RDC, notre pays, vous savez, une chose est certaine, doit être quand même sérieuse. Je parle de notre pays, la RDC, doit être sérieuse. Cet accord s'appuyait sur l'universalité. Université de quoi? Tous les pays se sont engagés dans cet accord universellement sur le climat, tout en s'appuyant sur les contributions nationales à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un aspect fondamental en matière climatique. Bon, Piro, qu'est-ce qui serait arrivé à ce moment-là? Les pays du monde ont trouvé que la RDC reste encore un potentiel, je vous dis, qui est aujourd'hui l'envie des pays étrangers. Nous avons beaucoup de ressources en forêt, beaucoup de ressources en eau, beaucoup de ressources en minerais.
Alors, si on vous écoute bien, Wesley, l'idée ici, c'est que vous voulez que la RDC joue le rôle de grand plan, comme le disait tout à l'heure notre invité. Vous l'avez dit, la RDC a été à la présidence de 48 pays les moins avancés. Qu'est-ce que cela a pu bénéficier? Mais si vous avez suivi, hein, dans l'intervention du professeur Albert Kabasele, il a parlé de ce problème qui s'est fait que chaque fois quand les gens se rendent pour des grands forums comme ça, des Congolais, soit il y en a qui vont pour rester, il y en a qui vont pour faire du shopping, et des fois ceux qui s'y retrouvent en ordre dispersé, ou soit même la délégation officielle conduite par le ministre n'a pas assez d'éléments pour pouvoir se défendre. Cela veut dire que ce sont des questions de fond qu'il faudrait aujourd'hui se poser, et puis peut-être pas, pourquoi pas, organiser des grands forums à l'interne sur notre vision sur la question du climat. Merci beaucoup. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, cher ami Pierrot, et bonjour à tout le monde, et bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, Pierrot, moi je voudrais tout simplement vous dire que nous avons un problème de leadership dans notre pays. C'est juste ça. Nous sommes un grand pays en termes de potentialité sur les termes de biodiversité. Mais nous avons un problème sérieux, manque de planification et manque de cohésion. dans presque tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs organisations qui œuvrent pour la défense de l'environnement. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne travaille pas en cohésion, on ne travaille pas en coordination avec le gouvernement central. Aujourd'hui, d'aucun auditeur, moi je pense, je dis bien, tout le monde est d'accord avec moi que nous sommes un grand pays en termes de richesse de forêts. Et tous les pays, si nous étions sérieux, tous les pays allaient nous soutenir. Et moi, je pense que si nous mettons du sérieux, notre candidature, même après 2 ans, nous serons acceptés parce que nous avons beaucoup de choses à défendre, pas tout simplement pour l'intérêt de la RDC, mais pour l'intérêt de toute l'Afrique et sinon de tout le monde, et partout dans le monde, et dans les coins même les plus reculés, par exemple en Indonésie et au Brésil, où on a besoin de nos ressources, Pierrot.
Merci beaucoup, Jean-Claude. C'est une question de leadership et maître du sérieux. Alors, être maître du sérieux, ça veut dire quoi? Le professeur pourra nous expliquer en termes clairs ce que ça veut dire maître du sérieux. Peut-être qu'il a déjà donné d'autres éléments de ce que nous devions faire, que ce soit sur le plan de l'organisation, sur le plan politique, mais aussi sur le plan scientifique en termes de cette question du climat. Merci beaucoup, Adrien. Vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour. Pierrot et la Menji, bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, je pense que c'est quand même une bonne chose pour notre pays, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que la communauté internationale pourra peut-être une seule fois dans l'histoire soutenir la candidature de la République démocratique du Congo, vu... donc le massif forestier qui caractérise ce pays, parce que c'est l'unique ou bien l'un des rares pays qui peut s'arranger pour lutter contre donc les réchauffements climatiques. Le grand pays que je ne m'aurais pas cité, ce sont le plus grand pollueur donc de cette situation, raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui ça ne sert à rien de s'interposer à tout bout de champ à partir du moment où on sait qu'il y a quand même un pays qui a quand même un stock. Et puis ces pays-là pouvaient quand même s'arranger derrière la République démocratique du Congo. Là c'est le premier point. Le deuxième point, il appartient maintenant au lobbying de la RDC elle-même qui est appelé à s'affirmer en tant que pays responsable. Il faut que la RDC aille avec les arguments tels que développés par nous pour faire comprendre à ces pays, parce qu'il y a peut-être certains pays au monde qui ignorent certaines réalités se trouvant sur le sol congolais. Donc là c'est deuxièmement. Troisièmement, la République démocratique du Congo doit essayer de mettre un peu de l'ordre dans sa boutique pour se faire respecter, parce que moi je me dis, si la communauté internationale et les autres membres ne parvenaient pas à faire leur choix sur la RDC a tous les droits possibles de s'enorgueillir pour essayer un peu d'intimider tous ces pays pollueurs. La RDC ne devrait pas aller à ce niveau-là comme donc tout en étant donc dans une position de faiblesse. La RDC devrait peut-être activer pour que tout le monde se rende compte que c'est un pays qui vient en position de force. Donc si nous perdons ce pays en tant que membre dans notre conseil, et les conséquences seront incalculables. C'est comme ça que moi je me suis toujours dit, c'est ça le moment que la diplomatie congolaise doit être maintenant en activité au lieu que nous ayons notre diplomatie réactive dans le dossier comme celui-ci. La diplomatie doit être offensive ou active pour essayer de faire comprendre les gens que nous n'avions pas peut-être le même besoin que vous. Vous êtes en train de polluer, mais nous sommes en train de conserver. Et si vous ne nous regardez pas avec un œil donc vigilant, ça sera vraiment catastrophique pour toute l'humanité. Donc moi je pense que c'est une candidature qui devrait normalement être encouragée par tous les membres qui siègent dans ce conseil. Et là, la RDC doit prendre aussi ses propres responsabilités pour s'affirmer en tant qu'un pays géant. Voilà ce que je pouvais dire, Pierre.
Merci beaucoup, Adrien. Mais faudrait-il seulement que la RDC présente comme argument sa forêt, mais le professeur l'a dit, hein, des éléments très clairs qui doivent en principe être considérés comme des préalables pour accompagner le souhait d'organiser ce grand forum, non seulement menacer et intimider les autres par rapport à sa forêt, mais c'est savoir aussi, scientifiquement parlant, qu'est-ce que vous en faites et quels sont vos arguments qui peuvent convaincre, n'est-ce pas, pour que le monde entier se retrouve en RDC pour ces grands forums, si ça pouvait être possible. Gervais, vous êtes à Calémie, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour mon professeur, bonjour à tous les membres de la radio Rapi qui sont en train de suivre en ce moment.
On vous écoute.
Oui, Monsieur Pierrot, génial cette initiative que nous saluons toujours en passant et nous encourageons beaucoup plus les initiateurs, surtout le ministre. Mais la plus grande question pour nous savons que nous sommes dans un pays vraiment qui est potentiellement riche, comme mes précédents l'ont dit, avec une forêt donc classée deuxième au monde de la forêt équatoriale. Nous ne serons pas vraiment échoués à organiser donc la COP 27, comme l'a dit le ministre. Mais c'est une question aussi de prise de conscience et de leadership, comme l'a souligné le professeur lui-même, surtout la prise de conscience. Parce qu'à ce qui concerne les différents points tels que soulevés par les amis, à ce qui concerne la sécurité et autres, c'est juste une question de préparation. Nous avions suivi récemment avec l'organisation de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'est tenue à Kinshasa. Aucune inquiétude n'a été vraiment soulevée. Et aussi, en ce qui concerne donc la COP 27, ça pourra toujours passer en bonne et due forme. Mais question pour nos dirigeants aussi, comme le professeur l'a dit, parce que la participation aussi de nos dirigeants politiques serait aussi souhaitable, et ça pourrait toujours aussi donner un peu du courage aux autres participants de bien vouloir dire que non, sinon les organisateurs eux-mêmes auraient pris de conscience pour que la réalisation de cette COP puisse être aussi là. Du point de vue aussi social, c'est que aussi donc l'accueil ou soit les donc sur le plan dans les plans
infrastructurels, comme
oui. Aussi les amis. Oui, donc c'est une question aussi de prendre aussi le temps. D'ailleurs, c'est un point aussi très important. On ne peut jamais accueillir quelqu'un dans un hôtel vraiment délabré ou commodant.
Voilà. Cela veut dire le professeur qui est depuis 8 ans, il participe à tout ce grand forum. Il a dit bien, il voit comment le pays se prépare, combien de délégations on doit recevoir. C'est pourquoi il a insisté beaucoup sur la question de la préparation. On accorde la parole au professeur Albert Kabasele. Vous avez suivi nos auditeurs. En plus, beaucoup de gens reviennent sur la potentialité, la forêt de la RDC. Faudrait-il seulement avoir cela comme argument? Mais comment aussi au niveau du pouvoir politique, vous qui êtes expert, qui avez été plusieurs fois dans ces COP, vous êtes dans les comités préparatoires COP 23, COP 24, mais est-ce qu'avant l'annonce de la candidature, la RDC a-t-elle déjà réuni ses experts pour essayer d'abord de réfléchir autour de cette question avant que l'intention soit présentée en public, professeur?
Une très bonne question que Radio Okapi me pose là. Donc je suis clair, j'ai appris comme vous la proposition de notre candidature à la COP. Je pense même que ça s'est discuté au gouvernement, peut-être, mais à part le gouvernement, le comité préparatoire n'a pas été saisi, et ainsi de suite. Donc c'est cela aussi, parce que ça devait d'abord se discuter à la base. Et la proposition devait partir d'en bas. Et donc, c'est cela le problème. Et je voudrais que les amis qui sont en train d'intervenir ne puissent pas rêver. Et je refuse qu'on compare l'organisation de la COP, conférence des parties du climat, par les CNUC, qu'on compare cela à la francophonie. La francophonie, c'est moins de 20 pays qui sont là et des délégations de 10 ou 5 personnes. Mais la COP, c'est une machine. C'est une très, très grosse machine. Donc, il y a beaucoup de délégations. Je vous informe que la Chine seule, elle aligne pas moins de 3 à 4 000 experts, la Chine seule. Les États-Unis, plus de 3 000 experts, la Russie, 2 000 experts, ainsi de suite. Ils viennent avec des agendas sur tout. Ils viennent avec un point de vue sur les gaz à effet de serre, avec un point de vue clair sur les forêts, sur les biocarburants ou les énergies renouvelables. Ils ont des points précis. Et quand ils parlent, c'est cohérent. Donc, ils ne se contredisent pas. Et ils sont financés. Ils ne traînent pas dans des officines comme PNUD et FAO pour attraper un billet pour un expert. Imagine, pour que moi je voyage, il faut que le PNUD me prenne en charge. Et je peux faire 1000 tours au PNUD pour les supplier, le ministre de l'Environnement qui essaye de se battre, qui fait bien son travail, même l'actuel. Dernièrement, il a écrit pour qu'on me donne ne fût-ce qu'un billet. Le ministre a dû même écrire. Donc, vous voyez, quand vous déposez votre demande au Trésor public, on vous dit qu'il n'y a pas l'argent. Et des fois, on devait voyager à 4-5 professeurs ou 20 experts, mais on voyage à 2. Et il y a beaucoup de matières transversales. Et la RDC n'a pas de drapeau partout. Et c'est comme ça qu'on est toujours perdant. Donc, il ne faut pas rêver. La COP n'est pas là parce que nous avons la forêt, parce que nous avons des minerais, parce que nous avons un grand barrage au monde. Non, on peut tenir la COP même au Rwanda. On peut la tenir même. C'est question de l'organisation. Mmh. Et partout où se tiendra la COP, on parlera de la RDC, parce que c'est un pays forestier. Mais on ne viendra pas tenir la COP en RDC parce que la RDC a la forêt. Non, ça c'est. Alors, il y a des matières pour lesquelles nous devions travailler. Aujourd'hui, le monde n'a pas encore la définition standard de la forêt. La forêt, c'est quoi? C'est un agrégat d'arbres qui occupe au moins un demi-hectare et avec les arbres qui ont un diamètre hauteur poitrine au-delà de 20 cm, avec une taille d'arbre d'au moins 3 mètres, avec une canopée qui renvoie l'ombre portée du soleil à 30%. Voilà la définition. Mais cette définition, on ne l'accepte pas. Donc, aujourd'hui, les pays tels que la Namibie, la Namibie a sa définition de la forêt. Et même les steppes et les toundras, eux, ils les appellent les forêts. Et nous, qui avons la vraie forêt, notre définition n'est pas acceptée par les autres. Et cela a un problème sur la quantification du carbone et le crédit carbone. Donc, le prix du carbone par tonne par hectare, qui avait été évalué dans les années 2007-2008 à $35 par tonne carbone par hectare. Aujourd'hui, on est descendu jusqu'à $5 par tonne carbone par hectare. On est même allé jusqu'à $1 par tonne carbone par hectare. Et des méthodologies telles que MRV ne sont pas encore standards. Les projets tels que les MDP, mécanismes de développement propre, ne sont pas encore à notre hauteur. Donc, il y a un grand travail à faire. Et la RDC, ce qu'elle doit faire, ce que la RDC doit faire, c'est d'abord chercher à s'accrocher au Brésil et à l'Indonésie. Nous qui avions des grands massifs forestiers, de signer des partenariats avec le Brésil, l'Indonésie, la Thaïlande, ça c'est pour le poumon d'Asie du Sud-Est, Brésil pour l'Amazonie et RDC pour le bassin du Congo. Si c'est les pays forestiers là s'entendent, travaillent et utilisent efficacement leurs scientifiques, ils peuvent faire marcher les
alors, de professeur, fonds, professeur, les pollueurs. Voilà, professeur, permettez en une minute.
On ne peut pas en intimider.
Voilà, professeur, permettez en une minute juste que Alain, qui est en Bandaga, place Emo, on revient à vous pour conclure. On comprend que le débat, il est très intéressant. On peut y revenir encore en long et en large. Alain, vous avez suivi les uns et les autres, enfin, pour terminer avec les auditeurs. Quel est votre point de vue autour de ces débats, rapidement, Alain?
Bonjour Radio Capi, bonjour à votre invité. Moi je crois que votre invité doit faire la part des choses entre le fond, la problématique ou la question qui doit être traitée lors du sommet et l'ambition d'organiser le sommet. Parce qu'apparemment, il a pu centrer sa réaction, son intervention par rapport à la capacité de l'État congolais à convaincre les États partis à prendre en considération son potentiel forestier. Mais ici, il ne s'agit pas du potentiel forestier comme tel. Il s'agit de la volonté de l'État congolais à accueillir le sommet. C'est ça, il doit insister plus sur ça. Alors, pour que nous arrivions à organiser le sommet, de mon point de vue, ce qui doit être fait, c'est d'abord répertorier le nombre d'hôtels, c'est-à-dire la capacité d'accueil. Et deuxièmement, voir la capacité technique d'organiser le sommet. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore convaincu le reste du monde par rapport à notre potentiel forestier que nous ne pouvons pas envisager organiser le sommet. Il y a deuxième élément, c'est par rapport à l'initiative. L'initiative ne pouvait venir que du gouvernement. Si le gouvernement arrive à convaincre les autres États ou l'organisation d'accepter notre candidature, c'est en ce moment-là que l'État maintenant va recourir auprès de ses services pour voir la
faisabilité. Mais est-ce que aussi, Alain, dans cette démarche, dommage qu'on ne soit pas allé plus loin avec vous, Alain, mais dans cette démarche, comme le professeur le disait, l'association avec ceux qui traitent la question du climat, elle est aussi assez importante. Bon, voilà, dommage, on va terminer par là, professeur. On a suivi les uns et les autres, vous aviez la parole, mais c'est juste peut-être en 1 minute et demie hein, pour conclure cet échange. On pourra revenir en loin et en large sur la question du climat, mais aussi, par rapport à ces soucis du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de tout ce que nous avons dit?
Oui, ce que nous pouvons retenir, l'intention est bonne, je la soutiens. Dire que la RDC doit organiser la COP 27, c'est une très bonne chose. Et moi, je ne dis pas que parce que nous avons la forêt, non, j'ai dit la forêt ne compte pas parce que nous avons la grande forêt, on doit organiser, non. Nous devons nous préparer. Je ne veux pas qu'on y aille de manière, qu'on y aille en solo. Et parce que le monde entier va nous regarder. Mmh. Et pour cela, il y a le chef de l'État qui sera dans la ligne de mire comme l'homme le plus actif. Ça sera notre diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Environnement et une équipe très bien préparée des experts et des infrastructures. Et vraiment, c'est cela la grande question. Et je me dis que tout cela, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas possible. Essayons de travailler d'abord à l'interne. Mmh. Essayons de colmater nos brèches et repositionnons-nous après 2021.
Merci beaucoup, professeur Albert Kabasele. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été président du comité préparatoire de la COP 22, membre du comité préparatoire de la COP 23 et membre également du comité préparatoire de la COP 24. Hein, vous l'avez dit, et en fonction de vos connaissances et votre expertise dans ces domaines de l'organisation de ce forum mondial. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux, mais les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Alain Goyeté à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamegi vous l'a présenté. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Mais on se retrouve demain à 11h heure de Kinshasa pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci pour votre sympathique attention et votre fidélité à la fréquence de la paix. Radio Capi, au revoir.